Alors, il n'est pas impossible que, pour certains d'entre vous en tout cas, la prédication que vous allez entendre cet après-midi, il n'est pas impossible qu'elle constitue la chose la plus importante que vous ayez jamais entendue et que vous entendrez jamais. Peut-être quelqu'un parmi vous ici, ou peut-être quelqu'un qui écoutera plus tard sur Internet. On va parler d'un truc cet après-midi dont les chrétiens parlent beaucoup, l'Évangile. Mais c'est quoi exactement l'Évangile ? C'est quoi exactement l'Évangile dont on entend tellement parler dans les milieux chrétiens ? Vous savez peut-être déjà que le mot Évangile, étymologiquement, ça veut dire « bonne nouvelle » en grec. Alors quand l'apôtre Paul, il dit par exemple qu'il n'a pas honte de l'Évangile, dit-il, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ça a l'air plutôt intéressant le concept d'Évangile, non ? Ça a l'air même plutôt important. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, quand il emploie ce terme ? Qu'est-ce qu'il veut dire par l'Évangile ? Quelle est cette bonne nouvelle, donc, qui semble si importante à connaître ? Eh bien, c'est précisément à cette question que l'apôtre Paul il va répondre dans le texte qu'on est sur le point de lire ensemble et d'étudier ensemble. Dans ce passage qu'on va lire, vous allez voir que Paul il veut répondre à des gens qui, en quelque sorte, ont dénaturé l'Évangile. C'est-à-dire des gens qui parlent de l'Évangile, d'accord ? Ils vont utiliser ce terme, mais ils en ont changé le sens, peut-être volontairement pour certains, peut-être même involontairement pour d'autres. Imaginez un pasteur qui prétendrait aujourd'hui annoncer l'Évangile, ce qu'il appelle l'Évangile, mais un pasteur qui en réalité annoncerait autre chose que la véritable bonne nouvelle qui normalement, en principe, fait l'objet de la foi chrétienne et de la prédication chrétienne. Imaginez ça, ça serait quand même assez grave. Et l'apôtre Paul, il va nous faire comprendre ici dans ce texte que c'est pas n'importe quoi qu'on peut faire passer pour l'Évangile. Le souci de Paul, donc, vous allez le voir, c'est un souci principalement intellectuel. C'est-à-dire qu'il veut qu'on comprenne intellectuellement ce que c'est que le vrai évangile, l'évangile authentique. Mais cette compréhension intellectuelle a d'énormes répercussions, en fait, dans notre vie, comme on va le voir tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en ce dimanche de Pâques, comme Jonas nous le rappelait tout à l'heure, ce que nous commémorons, c'est la résurrection de Jésus. Et parce que justement, d'après l'apôtre Paul, dans ce passage qu'on va lire, la résurrection de Jésus est un élément central et même essentiel de la bonne nouvelle qui normalement fait l'objet de la foi et de la prédication chrétienne. Dans le raisonnement de Paul, vous allez voir qu'il y a tout simplement deux points dans son raisonnement. Un, le fait de maintenir l'authenticité de l'Évangile est une question de vie ou de mort. Et deux, la résurrection corporelle de Jésus est un élément essentiel de l'Évangile. Donc, conclusion, croire à la résurrection de Jésus est une question de vie ou de mort. Lisons le texte, il s'agit de la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire une lettre que l'apôtre Paul a écrite à des chrétiens de son époque qui habitaient dans la ville de Corinthe. On va lire au chapitre 15, les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les saintes écritures que tu nous as transmises par tes prophètes, par tes apôtres, et merci pour la possibilité que nous avons ce soir d'étudier un extrait de ces textes, et nous prions que ces moments nous soient bénéfiques, Seigneur, sous l'action bienfaisante de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La première chose donc que l'apôtre Paul il veut nous faire comprendre dans ce passage qu'on vient de lire, c'est qu'il est extrêmement important de savoir quel est le véritable évangile chrétien. C'est-à-dire quelle est exactement cette bonne nouvelle qui fonde notre foi et notre espérance en tant que chrétien. Et il va nous le préciser ça dans les versets qui vont suivre à partir du verset 3. Mais d'abord, versets 1 et 2 du texte qu'on a lu, d'abord on voit que Paul il insiste vraiment sur l'importance de retenir l'évangile dans les bons termes. Sans quoi, d'après l'apôtre Paul, les conséquences seraient absolument dramatiques. Pour Paul c'est simple, notre salut même en dépend. Notre salut en dépend. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez l'insistance de Paul ici. Alors il faut bien comprendre que l'évangile, c'est donc une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de quelque chose qui s'est passé dans l'espace et dans le temps. C'est la bonne nouvelle d'un événement, de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Annoncer l'évangile, c'est faire connaître cette bonne nouvelle. Et croire l'évangile, c'est recevoir cette bonne nouvelle, c'est prendre connaissance donc de cette information et en tirer les conséquences logiques pour sa vie. Mais si on dénature cette nouvelle, si on dénature cette information, si on la remplace par une autre ou si on l'oublie, alors d'un côté, ça ne change rien à la réalité de ce qui s'est passé dans l'histoire, de ce qui s'est passé dans l'espace et dans le temps. Mais par contre, cette réalité qui ne change pas, elle est historique, elle s'est bien produite. Si on oublie l'information, si on la dénature, alors cette réalité devient inefficace dans notre vie, puisqu'on ne va pas en tirer les bonnes conséquences, puisqu'on n'est pas au courant réellement de ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si je vous disais « bonne nouvelle », écoutez bien, bonne nouvelle, il y a Liliane Bettencourt qui est dehors sur le trottoir et qui est en train de distribuer toute sa fortune aux gens qui passent. Alors si vous croyez la bonne nouvelle, vous allez en tirer certaines conséquences logiques, n'est-ce pas ? Comme par exemple vous précipiter dehors pour recevoir un petit peu de cette fortune. Petite part du gâteau, n'est-ce pas ? C'est logique, c'est normal. Mais si vous n'écoutiez pas quand j'ai annoncé la bonne nouvelle, ou si, imaginons, vous souffrez d'amnésie à court terme, vous l'avez entendu, mais vous avez oublié aussitôt ce que je venais de dire. Ou si vous n'avez pas bien entendu parce que les enfants faisaient du bruit, ou peut-être vous avez mal compris ce que j'ai dit. En fait, vous avez compris que votre tata Liliane est en cours de traitement contre son cancer et qu'elle apprécierait votre passage à l'hôpital. Si c'est ça que vous aviez compris, vous allez en tirer des conséquences différentes, n'est-ce pas ? Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de la part d'une banque qui m'informait que j'étais titulaire d'un compte sur lequel je n'avais pas fait d'opération depuis 1994. C'est véridique, hein. J'avais complètement oublié l'existence de ce compte que mes parents devaient avoir ouvert pour moi quand j'étais enfant. Le solde de ce compte, 8,13 €. Mais je me suis dit, quand même, c'est dingue, j'ai oublié l'existence d'un compte en banque à mon nom. Et en oubliant l'existence de ce compte, bien sûr, je n'ai pas fait disparaître la réalité de son existence. Hein. C'est un compte en banque qui existait réellement en mon nom, qui existe encore d'ailleurs en mon nom, dans l'espace et dans le temps. Mais en oubliant l'existence de ce compte, en oubliant cette information, ou en n'ayant pas connaissance de cette information, j'ai vécu tout ce temps comme étant plus pauvre que je l'étais en réalité. Ça veut dire que le 5 juillet 2002, j'aurais pu l'acheter, ce hamburger à Burger King. Non, pas, ils n'étaient pas ouverts en France encore, mais à McDo. J'étais pas obligé de m'en priver. Et avec l'évangile, c'est un peu la même chose, mais multiplié par l'infini. Il y a une réalité, vous voyez. Une réalité, c'est que Dieu a fait quelque chose. Il a fait quelque chose dans l'espace et dans le temps pour sauver les hommes. Bon, ça, c'est une super bonne nouvelle, non ? Dieu est intervenu dans l'histoire pour sauver les hommes. Il a fait quelque chose pour sauver les hommes. Mais si on oublie ce qu'elle est, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire si on oublie ce qu'il a fait, si on oublie cette information, ou si on la remplace par autre chose, ou si on la dénature, cette bonne nouvelle. Certes, la réalité historique de ce qui s'est passé ne change pas, mais on empêche cette réalité de produire dans notre vie ce qu'elle est censée y produire, à savoir notre salut. C'est quand même une conséquence de taille. Et c'est pour cette raison que Paul, ici, il insiste tellement dans un premier temps sur l'importance de, dit-il, retenir l'évangile dans les bons termes. Dans les bons termes, en disant même, Paul rajoute même que notre salut en dépend. C'est dire l'importance, n'est-ce pas, de retenir l'évangile dans les bons termes. Et c'est aussi pour cette raison que nous, aujourd'hui, nous ne devons pas reculer devant les intimidations de ce monde plutôt relativiste et pluraliste qui nous accuse parfois d'intégrisme, lorsqu'en tant que chrétiens qui croyons en la Bible, nous défendons parfois, avec un effort certain, nous défendons l'authenticité de l'Évangile, en disant par exemple, ben non, on ne peut pas croire tout et son contraire sous prétexte de tolérance. Oui, c'est grave si on remet en question tel ou tel point essentiel de la foi chrétienne. Non, la bonne nouvelle annoncée par Jésus et les apôtres n'est pas un concept fluide qu'on peut mettre au goût du jour. Oui, il y a une vérité objective, et d'ailleurs, le salut des gens en dépend. Et ce n'est pas de l'intégrisme de dire ça, ou alors c'est du bon intégrisme, c'est-à-dire on veut être intègre avec ou préserver l'intégrité de cet évangile, et c'est exactement la démarche de l'apôtre Paul dans ce texte. Il dit c'est important de faire cela, parce que les conséquences sont importantes, les implications sont importantes. Ok, il est donc important de retenir l'évangile dans les bons termes. Mais quels sont-ils alors ces termes ? Quel est donc le véritable évangile chrétien ? Quelle est exactement cette bonne nouvelle qui fonde notre foi et notre espérance en tant que chrétien ? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul nous précise ensuite à partir du verset 3, verset 3 à 7 notamment. Et c'est une bonne nouvelle qui, dans ce passage, tient à deux éléments essentiels que Paul met en avant, sur lesquels il attire en particulier notre attention en rajoutant les deux fois une petite expression, une petite formule qui est la même, les deux fois, cette formule qui est « selon les Écritures ». Et il fait ça pour nous montrer que ces éléments sont conformes à tout le reste de la révélation de Dieu. Ils s'inscrivent dans la continuité de tout le reste de la révélation de Dieu, et donc ce sont des éléments conformes au plan de Dieu, conçus depuis toujours, annoncés d'avance, dont Dieu parle déjà depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Ce sont des éléments qui accomplissent le plan éternel de Dieu pour le salut des hommes. C'est ça qu'il veut dire quand il dit « selon les Écritures ». Ces choses-là accomplissent ce plan éternel de Dieu, dont il est question dans les Écritures, que Dieu a conçu, ce plan que Dieu a conçu depuis toute l'éternité pour le salut des hommes. Quels sont ces deux éléments ? Premièrement, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Deuxièmement, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul nous rappelle ici que le Christ, et le terme de Christ en grec, ça veut dire le Messie. C'est juste la version grecque du mot Messie. Il nous rappelle que le Messie, Jésus, est venu pour nous sauver de nos péchés, c'est-à-dire pour nous sauver de ce qui nous séparait de Dieu, et il a fait cela en mourant. Il a donné sa vie, en quelque sorte, comme une rançon, comme rançon de notre délivrance. Jésus, en mourant, a accepté de prendre sur lui le châtiment de Dieu qui nous était destiné, en fait, en raison de nos péchés. Jésus, en quelque sorte, s'est substitué à nous en mourant sur la croix. Et il a détourné sur lui-même les conséquences de nos péchés. Et il a pu faire ça, d'ailleurs, au profit d'un nombre incalculable d'hommes, de femmes et d'enfants, parce que lui, contrairement à nous, était parfaitement juste, parfaitement pur, parfaitement saint. Et en plus, il avait, avec sa nature humaine, il avait aussi la nature divine qui était liée à sa nature, unie à sa nature humaine, ce qui veut dire qu'il était même capable de régler une dette infinie, proportionnelle à la justice infinie de Dieu. Et il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Et il n'y a que Jésus qui l'a fait. Et c'est ça que Paul veut dire quand il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, ou en conformité, conformément aux Écritures. Ok. Mais comment en être sûr ? Tout le monde sait que Jésus est mort. Tous ceux qui croient à l'existence historique de Jésus croient qu'il est mort. Il y a une poignée de gens un peu farfelus qui mettent en doute l'existence historique de Jésus. Mais l'écrasante majorité des gens croient que Jésus a existé et il est mort, comme tout être humain. Mais comment savoir pour sûr qu'il est mort pour nos péchés ? Comment savoir pour sûr que sa mort produit ce qu'on appelle l'expiation de nos péchés ? C'est-à-dire produit l'effacement de nos péchés, ou le fait de régler la dette que nous devions à cause de nos péchés. Comment être sûr de ça ? Parce que ça sonne bien en théorie, n'est-ce pas ? Mais n'importe qui peut prétendre une chose semblable. Qui sait, ça se trouve, c'est la mort d'Elvis Presley qui produit l'expiation de nos péchés. Ou la mort de Nelson Mandela. Peut-être qu'un jour, vous allez vous promener dans la rue, vous allez voir un prédicateur de rue qui va vous dire « Gandhi est mort pour tes péchés ». Ça sonne aussi bien que Jésus est mort pour tes péchés, hein ? Comment savoir pour sûr que c'est bien Jésus qui est mort pour nos péchés ? Eh bien, voici comment on peut le savoir. Voici ce qui valide de manière suprême et incontestable tout ce que Jésus a prétendu avant de mourir. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est vrai que n'importe qui peut prétendre venir de la part de Dieu. N'importe qui peut prétendre même être l'incarnation de Dieu. N'importe qui peut prétendre être le Messie tant attendu. Vous savez, dans toutes les pages de l'Ancien Testament dont il est question dans toute l'histoire du peuple juif. N'importe qui peut prétendre accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. N'importe qui peut prétendre être sans péché. N'importe qui peut prétendre venir pour offrir sa vie pour le pardon des péchés des autres. Et ça se trouve, il y aurait un gars qui prétendrait tout ça et il meurt. Et après sa mort, on se pose la question, peut-être que c'était vrai. Comment savoir ? Mais si le troisième jour, après être mort et enterré, il revient d'entre les morts, alors là, ce gars-là, il vous présente un argument implacable. Réponds à ça. Voilà tout ce que j'ai prétendu. Et si tu as encore des doutes, je reviens d'entre les morts. C'est la raison pour laquelle Paul insiste tellement ici sur toutes les personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection, versets 5 à 7. Pour lui, ce sont des arguments qui attestent de la véracité de l'événement historique que Jésus est bel et bien ressuscité d'entre les morts. La plupart des gens dont Paul parle ici sont vivants encore au moment où il écrit, il le précise d'ailleurs, et en le précisant, ce qu'il veut, c'est que les gens, ils n'hésitent pas à aller les trouver, que ses lecteurs n'hésitent pas à aller trouver ces gens, certains de ces gens, pour leur demander, pour qu'ils puissent confirmer ou réfuter ce que dit Paul. Paul, ensuite, il ajoute même son propre témoignage, le témoignage de sa conversion et du changement absolument radical dans sa vie. Il rappelle qu'autrefois, il persécutait l'Église de Dieu, il persécutait les chrétiens, mais il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc qui a bouleversé la vie de l'apôtre Paul, qui l'a changé complètement, qui l'a transformé complètement. Et quel événement a bien pu produire un tel changement chez Paul ? Quel événement a bien pu produire une telle consécration à l'œuvre de Dieu, à l'Église de Dieu qu'autrefois il persécutait, sinon la rencontre avec le Christ ressuscité ? Pour Paul, donc, la résurrection de Jésus est un élément indispensable du véritable évangile. D'abord, parce qu'elle certifie l'efficacité expiatoire de la mort de Jésus. C'est-à-dire, elle certifie que la mort de Jésus est vraiment efficace pour nous délivrer de nos péchés. Mais pas que ça. La résurrection corporelle de Jésus, c'est aussi le triomphe de notre Sauveur. Et à ce titre, on peut dire que la résurrection de Jésus inaugure historiquement notre propre salut. En vertu de la résurrection de Jésus, le salut des croyants n'est pas que pure théorie. Le salut des croyants n'est pas que pure théorie. Le salut des croyants, en vertu de la résurrection de Jésus, ce salut est incarné historiquement. Un peu plus loin dans ce même passage, on ne l'a pas lu, mais un peu plus loin, Paul il dit que le Christ ressuscité, c'est les prémices des croyants qui meurent, c'est-à-dire que Jésus est le premier ressuscité d'un grand peuple, le peuple des croyants, qui ressuscitera un jour à sa suite. Donc notre salut n'est pas que pure théorie. Il s'est incarné en quelque sorte, il a pris forme concrète, j'ai envie de dire, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas juste besoin d'être acquitté de nos péchés. On avait aussi besoin d'être délivré des conséquences dans lesquelles nos péchés nous avaient plongés. C'est-à-dire que nous avions besoin d'être délivrés de la mort. Dans le même passage, un peu plus loin, l'apôtre Paul y rappelle que par un homme, la mort est entrée dans le monde. Cet homme, c'est Adam, le premier homme. Et que par un homme aussi, est venue la résurrection. Et c'est par Jésus, donc, qu'est venue la résurrection. C'est par Jésus qu'est venue la délivrance de la mort. Imaginez que vous soyez emprisonné dans un cachot quelque part. Vous êtes surveillé par un méchant. Et ça fait longtemps que ça dure, vous êtes dans ce cachot, derrière vos barreaux, et il y a un méchant qui vous surveille, qui vous garde dans ce cachot, qui vous maintient captif. Et imaginez qu'un jour un héros vienne pour combattre le méchant pour vous. Et imaginez que pour triompher du méchant, bah le héros il sacrifie sa vie. Merveilleuse histoire, n'est-ce pas ? On adore ces histoires. Quel acte de bravoure héroïque ! Le gars, il va sacrifier sa vie pour vaincre l'ennemi. Sauf qu'une fois le méchant vaincu, et une fois le héros mort, imaginez qu'il n'y a personne pour vous ouvrir la porte du cachot. Votre ennemi qui vous tenait captif est vaincu, génial ! Vous êtes enfin débarrassé de lui. Mais vous n'êtes pas libre pour autant. C'est ballot, comme on dit. Et de la même façon, à quoi ça servirait pour nous d'être libérés de nos péchés si on n'était pas libérés de la mort ? À quoi ça servirait ? On serait sauvés à moitié, en quelque sorte. On serait sauvés en théorie, mais pas en pratique, si j'ose dire. On pourrait toujours espérer que notre âme aille vers Dieu, peut-être, après la mort, mais notre corps, lui, c'est sûr, il retournerait à la poussière sans aucun espoir de délivrance. Or, nous ne sommes pas qu'une âme. En tant qu'êtres humains, nous sommes corps et âme, des êtres unifiés. Et la bonne nouvelle que constitue l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons sauvés tout entiers. Ce que Dieu nous présente en Jésus, c'est un salut complet pour l'homme complet, corps et âme. Alors on se posait la question en introduction, c'est quoi exactement cet évangile dont parlent tant les chrétiens ? C'est une bonne nouvelle, ok. Mais quoi comme bonne nouvelle ? Eh bien c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait dans l'espace et dans le temps pour sauver tous ceux qui se confient en lui. Et dans ce passage qu'on vient de lire et regarder ensemble, cette réalité est résumée à deux informations essentielles. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, il est ressuscité le troisième jour. Et ces informations sont tellement importantes que notre salut en dépend. Alors de nos jours, on entend parfois dire, même par des gens qui portent le nom de chrétien, ou qui portent le titre de théologien, ou de pasteur, ou de prêtre, on entend parfois dire que finalement c'est pas si important que ça, de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Finalement ça change pas grand-chose. Tu es libre de le croire, puis tu es libre de pas forcément le croire. On comprend bien que c'est pas facile à croire. Ce qui est important, finalement, c'est pas tellement ça. Ce qui est important, c'est l'enseignement moral de Jésus. Ou bien, ce qui est important, c'est l'exemple de sa vie altruiste. Ou bien, ce qui est important, c'est l'esprit de Jésus que nous sommes appelés à porter et à répandre autour de nous, au profit du monde qui nous entoure. Bien, ce qui est important, c'est l'héritage d'amour que Jésus nous a laissé et que nous devons incarner au mieux. Et finalement, c'est comme ça que Jésus est vivant. C'est comme ça que Jésus est présent au milieu de nous. Baliverne. Parce que ce qui est important selon l'apôtre Paul, c'est que le Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. En dehors de ces réalités, on n'a pas l'évangile. On peut annoncer et promouvoir et enseigner tout ce qu'on veut, et on peut même appeler ça chrétien si on veut, ou protestant, ou évangélique, mais on n'a pas la véritable bonne nouvelle au sens où l'entendaient Jésus et les prophètes et les apôtres. La seule bonne nouvelle, en fait, qui mérite d'être entendue et qui concerne ce que Dieu a fait réellement dans l'histoire pour nous sauver. Et c'est aussi la raison pour laquelle je disais tout au début qu'aujourd'hui, il n'était pas impossible que pour certains d'entre vous, cette prédication constitue la chose la plus importante que vous ayez jamais entendue et que vous entendrez jamais. Parce que l'objet de cette prédication, qui est aussi l'objet du texte que nous avons lu et étudié ensemble, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Alors vous avez entendu l'évangile aujourd'hui, que ce soit ici dans cette pièce ou peut-être quelqu'un qui écoute sur internet, vous avez entendu l'évangile. Est-ce que vous allez en tirer les conséquences qui s'imposent logiquement, à savoir reconnaître que vous ne méritez pas la faveur de Dieu et placer toute votre confiance par conséquent en Jésus, sur la base de ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, pour vous réconcilier éternellement avec Dieu. Ce matin, j'ai lu sur le fil Facebook de notre ami Jonathan Chintrier, que un certain nombre d'entre vous connaissez bien, j'ai lu cette citation du théologien allemand Wolfhard Pannenberg, qui a dit, donc c'est traduit de l'allemand à l'anglais, puis ensuite de l'anglais au français, qui a dit que, je cite, « les éléments en faveur de la résurrection de Jésus sont tellement concluants que personne ne la mettrait en doute, sa résurrection, si ce n'était pour deux raisons. D'abord, le fait que c'est un événement très inhabituel. Ensuite, le fait que si on y croit, on doit nécessairement changer sa façon de vivre. Oui, Christ est mort pour nos péchés, et le troisième jour, il est ressuscité. » Et ça change tout. Ça change tout. Recevez cette bonne nouvelle et qu'elle transforme toute votre vie dorénavant. Ne résistez pas aux conséquences logiques qui découlent de cette bonne nouvelle. Comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Vous voyez ? Croire à la résurrection de Jésus, c'est bien une question de vie ou de mort. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, mourir pour nos péchés et ressusciter le troisième jour en vainqueur. Aide-nous à garder l'évangile au cœur de nos préoccupations. Aide-nous à fixer notre attention sur ces réalités. Et qu'elle transforme en effet notre vie. T'en prions en son nom, au nom de Jésus. Amen.